Casanova, Lucrezia. Me voilà donc à Rome, bien huppé, passablement fourni d'espèces, monté en bijoux, pourvu de quelque expérience, avec de bonnes lettres de recommandation, parfaitement libre et dans un âge où l'homme peut compter sur sa fortune s'il a un peu de courage et une figure qui prévienne en sa faveur les personnes qui l'approchent. J'avais, oh non point de la beauté, mais quelque chose qui vaut mieux, un certain je ne sais quoi qui force à la bienveillance et je me sentais fait pour tout. Je savais que Rome était la ville unique où l'homme, partant de rien, pouvait parvenir à tout. Cette idée relevait mon courage, et je dois avouer qu'un amour-propre effréné, dont l'inexpérience m'empêchait de me défier, augmentait singulièrement ma confiance. L'homme appelé à faire fortune dans cette antique capitale du monde doit être un caméléon susceptible de réfléchir toutes les couleurs de l'atmosphère qui l'environne, un protée apte à revêtir toutes les formes. Il doit être souple, insinuant, dissimulé, impénétrable, souvent bas, perfidement sincère, faisant toujours semblant de savoir moins qu'il ne le sait, n'ayant qu'un seul ton de voix, patient, maître de sa physionomie, froid comme la glace lorsqu'un autre à sa place serait tout de feu. Et s'il a le malheur de n'avoir pas la religion dans le cœur, chose habituelle dans cet état de l'âme, il doit l'avoir dans l'esprit. Souffrant en paix, s'il est honnête homme, la mortification de se voir contraint de se reconnaître hypocrite. Mais s'il aborde cette conduite, il doit quitter Rome et aller chercher fortune ailleurs. De toutes ces qualités, oh, je ne sais si je me vante ou si je me confesse, je ne possédais que la seule complaisance, car du reste je n'étais qu'un intéressant étourdi à un assez bon cheval de race, point dressé ou plutôt mal, ce qui est pis. Je commençai d'abord par porter au père Giorgi la lettre de Don Celio. Ce savant moine possédait l'estime de toute la ville, et le pape lui-même avait pour lui une grande considération, parce qu'il n'aimait pas les jésuites et qu'il ne se masquait pas pour les démasquer, quoique les jésuites se crussent assez forts pour pouvoir le mépriser. Après avoir lu la lettre avec beaucoup d'attention, il me dit qu'il était prêt à être mon conseil et que par conséquent, il ne tiendrait qu'à moi de le rendre responsable que rien de sinistre ne m'arriverait, puisqu'avec une bonne conduite, l'homme n'a point de malheur à craindre. Et m'ayant ensuite demandé ce que je voulais faire à Rome, je lui répondis que ce serait lui qui me le dirait. Cela peut être, mais pour cela, ajouta-t-il, venez me voir souvent, et ne me cachez rien, absolument rien, de tout ce qui vous regarde, ni de tout ce qui vous arrivera. Don Lelio, lui dis-je alors, m'a aussi donné une lettre pour le cardinal Acquaviva. Oh, je vous en fais mon compliment, car c'est un homme qui, à Rome, peut plus que le pape. Dois-je la lui aller porter de suite? Non, non, je le verrai ce soir et je le préviendrai. Venez me voir demain, je vous dirai où et à quelle heure vous devrez la lui remettre. Avez-vous de l'argent? Oh, assez pour pouvoir me suffire au moins un an. Voilà qui est excellent. Avez-vous des connaissances? Ah, non, aucune. Oh, n'en faites pas sans me consulter et surtout n'allez pas au café et aux tables d'hôtes. Et si vous voulez y aller, écoutez et ne parlez pas. Jugez les interrogateurs et, si la politesse vous oblige à répondre, éludez la question si elle peut tirer à conséquence. Parlez-vous français? Ah non, pas le mot. Tant pis, il faut l'apprendre. Avez-vous fait vos études? Mal, mais je suis infarinato au point que je me soutiens en cercle. C'est bon, mais soyez circonspect. car Rome est la ville des infarinati qui se démasquent entre eux et qui se font constamment la guerre. J'espère que vous porterez la lettre au cardinal, vêtu en modeste abbé, et non dans cet habit élégant qui n'est pas fait pour conjurer la fortune. Adieu donc, et à demain. » Très content de l'accueil de ce moine et de la manière dont il m'avait parlé, je sortis et me dirigeai sur Capodifiore pour porter la lettre de mon cousin Don Antonio à Don Gaspar Vivaldi. Ce brave homme me reçut dans sa bibliothèque où il se trouvait avec deux abbés respectables. Après l'accueil le plus gracieux, il me demanda mon adresse et m'invita à dîner pour le lendemain. Il me fit le plus grand éloge du père Giorgi et, m'accompagnant jusqu'à l'escalier, il me dit qu'il me remettrait le lendemain la somme que Don Antonio le chargeait de me compter. Voilà encore de l'argent que mon généreux cousin me donnait. Oh, il n'est pas difficile de donner quand on en a les moyens. Mais savoir donner est un art que tout le monde ne possède pas. Je trouvais le procédé de Don Antonio moins généreux encore que délicat. Je ne pouvais point refuser, je ne le devais pas. Comme je me retirais, voilà Stefano que je rencontre nez à nez, et ce singulier original, toujours le même, me fit sans caresse. Cet être qu'au fond je méprisais, je ne pouvais le haïr, car je me sentais forcé de le considérer comme l'instrument dont la Providence avait bien voulu se servir pour m'empêcher de tomber dans le précipice. Après m'avoir conté qu'il avait obtenu du pape tout ce qu'il désirait, il me dit que je devais éviter la rencontre du fatal sbire qui m'avait prêté les deux sequins. Car, comme il savait que je l'avais trompé, il voulait se venger. Je lui dis de faire en sorte qu'il remît mon billet chez un marchand de sa connaissance et que j'irai le retirer. La chose se fit ainsi et tout fut terminé. Je me rendis, sans perdre de temps, chez M. Gaspard, où je dînais en compagnie choisie. Il n'était point marié et n'avait d'autre passion que la littérature. Il aimait la poésie latine plus encore que l'italienne, et Horace, que je savais par cœur, était son auteur favori. Après le dîner, nous passâmes dans son cabinet, où il me remit 100 écus romains de la part de Don Antonio et m'assura que je lui ferais un vrai plaisir, toutefois que je voudrais aller prendre le chocolat dans sa bibliothèque. Dès que j'eus quitté Don Gaspard, je me dirigeai vers la Minerve, car il me tardait de voir la surprise de ma Lucrezia et d'Angélique, sa sœur. Je demandai donc à Cecilia Monti, leur mère, et je vis avec étonnement une jeune veuve qui paraissait sœur de ses charmantes filles. Je n'eus pas besoin de me nommer, j'étais annoncé et elle m'attendait. Ses filles vinrent et leur abord me causa un agréable moment, car je ne leur paraissais pas le même. Donna Lucrezia me présenta à sa sœur cadette, qui n'avait que 11 ans, et à son frère, abbé de 15 ans, et tout à fait joli. J'eus soin d'observer un maintien qui plut à la mère. Modestie, respect, démonstration du plus vif intérêt que tout ce que je voyais devait m'inspirer. Le bon avocat arriva et, surpris de me trouver tout nouveau, fut flatté que je n'eusse pas oublié le nom de son père. Il entama des propos pour rire et je les suivis, soigneux de ne point leur donner le vernis de gaieté qui nous faisait tant rire en voiture. De sorte que, pour me faire compliment, il me dit qu'en me faisant couper la barbe, je l'avais donné à mon esprit. Donna Lucrezia ne savait que penser de mon changement d'humeur. Sur la brune, je vis arriver successivement 5 ou 6 dames, ni belles ni laides, et autant d'abbés qui me parurent des volumes par lesquels je devais commencer mon étude romaine. Tous ces messieurs écoutèrent attentivement mes moindres propos, et j'eus soin de pouvoir les laisser maîtres de leurs conjectures. Donna Cecilia dit à l'avocat qu'il était bon peintre, mais que ses portraits n'étaient pas ressemblants. Il répondit qu'elle ne voyait le portrait qu'en masque, et je fis semblant d'être mortifié de la réponse. Donna Lucrezia dit qu'elle me trouvait absolument le même, et sa sœur soutint que l'air de Rome donnait aux étrangers une apparence particulière. Tout le monde applaudit et Angélique rougit de sa satisfaction. Au bout de 4 heures, je m'évadais lorsque l'avocat, me suivant, vint me dire que sa belle-mère désirait que je devinsse l'ami de la maison. Je le remerciai affectueusement et me retirai, désirant avoir plu à cette charmante société autant que j'en avais été enchanté. Le lendemain, je me présentai à l'abbé Gama. C'était un Portugais d'environ 40 ans, d'une jolie figure, qui affichait la candeur, la gaieté et l'esprit. Son affabilité voulait inspirer la confiance. Ses manières et son langage pouvaient le faire passer pour romain. Il me dit, avec des paroles sucrées, que son éminence elle-même avait donné des ordres à mon égard à son maître d'hôtel, que j'aurais mon logement dans le palais même de Monseigneur, que je mangerais à la table de la secrétaire, et qu'en attendant que j'eusse appris le français, je m'exercerais sans me gêner à faire des extraits de lettres qu'il me donnerait. Il me donna ensuite l'adresse du maître de langue auquel il avait déjà parlé et qui était un avocat romain nommé Delacroix, qui demeurait précisément en face du palais d'Espagne. Après cette cour d'instruction et m'ayant assuré que je pouvais compter sur son amitié, il me fit conduire chez le maître d'hôtel, qui me fit signer mon nom au bas d'une feuille d'un grand livre rempli d'autres noms. Après quoi, il me compta 60 écus de romains pour 3 mois d'appointements payés d'avance. Ensuite, suivi d'un staffier, il m'accompagna au troisième à l'appartement qui m'était destiné et qui était fort proprement meublé. En sortant, le domestique me remit la clé en me disant qu'il viendrait tous les matins pour me servir, et le maître d'hôtel m'accompagna jusqu'à la porte pour me faire connaître au portier. De là, m'étant rendu à mon auberge, je fis porter mon petit bagage à l'hôtel d'Espagne, et je me trouvai installé dans une maison où, sans aucun doute, j'aurais fait une brillante fortune si j'avais pu tenir une conduite trop opposée à mon caractère. Volentem ducit, nolentem trahit. On sent que mon premier mouvement me porta vers mon mentor, le père Giorgi, auquel je fis un récit exact. Il me dit que je pouvais me considérer en bon chemin et qu'étant supérieurement bien installé, ma fortune ne pouvait dépendre que de ma conduite. Songez, me dit cet homme sage, que pour la rendre irréprochable, vous devez vous gêner et que tout ce qui pourra vous arriver de désagréable ne sera regardé par personne comme un malheur ni attribué à la fatalité. Ces mots sont vides de sens, on vous en attribuera toute la faute. Ah, je prévois avec peine, mon révérend père, que ma jeunesse et mon défaut d'expérience m'obligeront souvent à vous importuner. Oh, je crains de finir par vous être à charge, mais vous me trouverez docile et obéissant. Vous me trouverez souvent trop sévère, mais je prévois que vous ne me direz pas tout. Non, tout, absolument tout. Permettez-moi de rire. Vous ne me dites pas où vous avez passé hier 4 heures. Oh non, ce n'est d'aucune conséquence. J'ai fait cette connaissance en voyage et Je crois que c'est une maison honnête que je pourrais fréquenter, à moins que vous ne me disiez le contraire. Dieu m'en préserve, c'est une très honnête maison, fréquentée par des gens de probité. On s'y félicite d'avoir fait votre connaissance. Vous n'avez plus ça toute la compagnie, vous l'avez plus, et on espère vous captiver. J'ai tout su ce matin, mais vous ne devez pas fréquenter cette maison. Mais dois-je la quitter de but en blanc? Non, non, ce serait malhonnête de votre part. Allez-y une ou deux fois par semaine, mais point d'assiduité. Vous soupirez, mon enfant. Non, en vérité, non, je vous obéirai. Non, je désire que ce ne soit pas un titre d'obéissance et que votre cœur n'en souffre pas, mais en tout cas, il faut le vaincre. Souvenez-vous que la raison n'a pas de plus grand ennemi que le cœur. On peut cependant les mettre d'accord. On s'en flatte, mais défiez-vous de l'animum de votre cher Horace. Vous savez qu'il n'a pas de milieu. Nisi parete imperat. S'il n'obéit pas, il commande. Je le sais, mais dans cette maison, mon cœur ne court aucun danger. Tant mieux pour vous, car alors vous vous abstiendrez sans peine de la fréquenter. Souvenez-vous que mon obligation est de vous croire, et la mienne d'écouter vos sages avis et de les suivre. Je n'irai chez Donna Cecilia que de temps en temps. La mort dans le cœur, je lui pris la main pour la lui baiser. Mais il me pressa paternellement contre son sein en se détournant pour me cacher ses larmes. Je dînais à l'hôtel à côté de l'abbé Gama, à une table d'une douzaine de couverts, occupée par autant d'abbés. Car à Rome, tout le monde est abbé ou veut le paraître. Et comme il n'est défendu à personne d'emporter l'habit, quiconque veut être respecté le porte, la noblesse exceptée, qui n'est pas dans la carrière des dignités ecclésiastiques. Le chagrin que j'éprouvais ne me permit pas d'ouvrir la bouche durant tout le dîner, et ce silence fut pris pour une preuve de ma sagacité. En sortant de table, l'abbé Gama m'invita à passer la journée avec lui. Je m'en dispensai sous prétexte que j'avais des lettres à écrire, ce que je fis effectivement pendant 7 heures de suite. J'écrivis à Don Lelio, à Don Antonio, à mon jeune ami Paul, ainsi qu'au bon évêque de Martorano, qui me répondit de bonne foi qu'il aurait bien voulu être à ma place. Épris de Lucrezia et heureux, la quitter me paraissait une action barbare. Pour faire le bonheur de ma vie à venir, je commençais par être le bourreau du présent et l'ennemi de mon cœur. Je me soulevais contre cette nécessité qui me semblait factice et que je ne pouvais avouer comme avilissant au tribunal de ma propre raison. Il me semblait que le père Georgi, en me défendant cette maison, n'aurait pas dû me dire qu'elle était honnête. Ma douleur aurait été moindre. Ma journée, une partie de la nuit, se passèrent en pareille réflexion. Le matin, l'abbé Gama m'apporta un grand livre rempli de lettres ministérielles que, pour m'amuser, je devais compiler. Après avoir pris un air de besogne, je sortis pour aller prendre ma première leçon de français. Dès que je l'eus prise, je me dirigeai vers la Strada Condotta dans l'intention d'aller me promener quand je m'entendis appeler. C'était l'abbé Gama sur la porte d'un café. Je lui dis à l'oreille que Minerve m'avait défendu les cafés de Rome. Minerve, me répondit-il, vous ordonne d'en prendre une idée. Allez, asseyez-vous auprès de moi. J'entendis un jeune abbé qui contait à haute voix un fait, vrai ou controuvé, qui attaquait directement la justice du Saint-Père, mais sans aigreur. Tout le monde riait et faisait écho. Un autre, auquel on le demandait pourquoi il avait quitté le service du cardinal B, répondit que c'était parce que l'éminence prétendait n'être pas obligée de lui payer à part certains services. Et chacun de rire à volonté. Enfin, un autre vint dire à l'abbé Gama que s'il voulait passer l'après-dîner à la Villa Médicis, il en trouverait avec deux petites romaines qui se contentaient du quartino. C'est une monnaie d'or qui vaut le quart d'un sequin. Un autre abbé lut un sonnet incendiaire contre le gouvernement, et plusieurs en prirent copie. Un autre lut une satire de sa propre composition, et dans laquelle il déchirait l'honneur d'une famille. Au milieu de tout cela, je vois entrer un abbé d'une figure attrayante. À l'aspect de ses hanches, je le pris pour une fille déguisée, et je le dis à l'abbé Gama. Mais celui-ci me dit que c'était Beppino della Mamana, fameux castrato. L'abbé l'appelle et lui dit en riant que je l'avais pris pour une fille. L'impudent, me regardant fixement, me dit que si je voulais, il me prouverait que j'avais tort ou que j'avais raison. À dîner, tous les convives me parlèrent et je pensais avoir convenablement répondu. En sortant de table, l'abbé Gama m'invita à prendre le café chez lui et j'acceptai. Dès que nous fûmes tête à tête, il me dit que toutes les personnes qui composaient notre table étaient d'honnêtes gens. Ensuite, il me demanda si je croyais avoir généralement plu. Oh, j'ose l'espérer, lui dis-je. Vous auriez tort, me répondit l'abbé. Ne vous en flattez pas. Vous avez éludé si évidemment les questions qu'on vous a faites que tout le monde s'est aperçu de votre réserve. On ne vous questionnera plus à l'avenir. Mes gens seraient fâchés, mais aurait-il fallu publier mes affaires? Non, 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 il y a partout un juste milieu. C'est celui d'Horace, mais il est souvent fort difficile. Oh, il faut savoir à la fois se faire aimer et estimer. Mais je ne vise qu'à cela. Non, vous avez aujourd'hui plus visé à l'estime qu'à l'amour. C'est beau, sans doute, mais disposez-vous à combattre l'envie et sa fille, la calomnie. Si ces deux monstres ne parviennent pas à vous abîmer, vous vaincrez. Vous avez, par exemple, pulvérisé Salicetti, physicien, et qui plus est corse. Il doit vous en vouloir. Mais devais-je lui accorder que les envies des femmes ne peuvent jamais avoir la moindre influence sur la peau du fœtus. J'ai l'expérience du contraire. Êtes-vous de mon avis? Bon, je le suis ni du vôtre ni du sien, car j'ai bien vu des enfants avec des marques qu'on appelle envie. Mais je ne puis décider pertinemment si ces taches proviennent d'envie que les mères peuvent avoir dans leur grossesse. Mais moi, je puis le jurer. Tant mieux pour vous, si vous savez la chose avec tant d'évidence, et tant pis pour Salicetti, s'il en y la possibilité. Mais laissez-le dans son erreur. Cela vaut mieux que le contraire en vous faisant un ennemi. J'allais le soir chez Lucrèce. On savait tout et on m'en fit compliment. Elle me dit que je lui paraissais triste, et je lui répondis que je faisais les obsèques de mon temps, dont je n'étais plus le maître. Son mari, toujours plaisant, lui dit que j'étais amoureux d'elle, et sa belle-mère lui conseilla de ne point en faire l'intrépide. Après avoir passé une seule heure au milieu de cette charmante famille, je me retirai, enflammant l'air de l'ardeur du feu qui m'embrasait. En rentrant, je me mis à écrire, et je passai la nuit à composer une ode que le lendemain j'envoyais à l'avocat, certain qu'il la donnerait à sa femme, qui aimait beaucoup la poésie et qui ne savait pas que c'était ma passion. Je m'abstins ensuite d'aller la voir pendant 3 jours. J'apprenais le français et je compilais les lettres ministérielles. Il y avait chez son éminence réunion tous les soirs. Et la première noblesse de Rome, de l'un et l'autre sexe, s'y trouvait. Je n'y allais pas. Gamin me dit que je devais y aller sans prétention comme lui. J'y fus. Personne ne me parla. Même à personne étant inconnu, chacun me regarda et chacun voulut savoir qui j'étais. L'abbé Gama étant venu me demander quelle était la dame de la société qui me paraissait la plus aimable, je la lui indiquai. Mais j'en fus fâché, car le courtisan, s'étant approché d'elle, n'eut rien de plus pressé que de le lui dire. Et bientôt, je la vis me lorgner et puis me sourire. C'était la marquise G, dont le serviteur était le cardinal SC. Le matin du jour où j'avais décidé de passer la noire soirée chez Donna Lucrezia, je vois entrer dans ma chambre l'honnête avocat qui, après m'avoir dit que je me trompais si, en allant plus le voir, je pensais lui prouver que je n'étais pas amoureux de sa femme, m'invita pour le jeudi suivant à aller goûter à Testaccio avec toute la famille. « Ma femme, ajouta-t-il, c'est votre ode par cœur, elle l'a récité au futur d'Angélique qui depuis se meurt du désir de vous connaître. Il est poète aussi et il sera des nôtres à Testaccio. » Je lui promis de me rendre chez lui le jour indiqué avec une voiture à deux places. Dans ce temps-là, les jeudis du mois d'octobre étaient à Rome des jours de gaieté. Je fus le soir chez l'avocat. On ne s'y entretint que de la partie projetée, et je crus m'apercevoir que Lucrezia y comptait autant que moi. Nous n'avions ni ne pouvions avoir de plan arrêté, mais nous comptions sur l'amour et nous nous confions tacitement à sa protection. J'eus soin que le bon père Giorgi ne pût apprendre cette partie de plaisir de personne avant d'en être instruit par moi, et j'allais positivement lui demander la permission d'y aller. J'avoue que, pour qu'il n'eût rien à y opposer, j'affectais la plus complète indifférence. Aussi, ce brave homme me dit-il qu'il fallait absolument que j'en fusse, que c'était une partie en famille, et que d'ailleurs rien ne devait m'empêcher d'apprendre à connaître les environs de Rome et de me divertir honnêtement. Je me rendis donc chez Donna Cecilia dans un carrosse coupé que je louais à un Avignonnais nommé Roland, que je nomme ici parce que j'aurai à parler de cet homme 18 ans plus tard, sa connaissance ayant eu des suites importantes. La charmante veuve me présenta Don Francesco, son futur beau-fils, comme grand ami des gens de lettres et comme très érudit lui-même. Je pris cette annonce pour de l'argent comptant et je le traitai en conséquence. Malgré cela, je lui trouvai l'air engourdi et le maintien bien différent de celui qu'aurait dû avoir un jeune homme à la veille d'épouser une aussi jolie personne qu'Angélique. Mais il était honnête et riche, ce qui vaut beaucoup mieux que l'air galant et l'érudition. Lorsque nous fûmes prêts à monter en voiture, l'avocat me dit qu'il serait mon compagnon dans la mienne et que les trois dames iraient avec Don Francesco dans l'autre. Je me hâtai de lui répondre qu'il devait aller avec Don Francesco et que Donna Cecilia devait être mon lot, que je serais déshonoré si les choses s'arrangeaient autrement. En disant cela, j'offris le bras à la belle veuve qui trouva mon arrangement dans les convenances de la bonne société, et un regard approbateur de ma Lucrezia me causa la plus agréable sentiment. Cependant, la proposition de l'avocat me laissa une sensation pénible, car elle était en contradiction avec sa conduite antérieure et surtout avec les discours qu'il m'avait tenus chez moi. Serait-il devenu jaloux? Me disais-je. Cela m'aurait presque donné de l'humeur, mais l'espoir de le ramener à Testaccio dissipa le brouillard et je fus aimable avec Donna Cecilia. La promenade et le goûter, aux dépens de l'avocat, nous traînèrent facilement jusqu'à la fin du jour. Je fis les frais de la gaieté et mon amour pour Lucrezia n'y fut pas mis une seule fois sur le tapis. Toutes mes attentions furent pour la mère. Je dis quelques mots en passant, Lucrezia. Je ne parlais pas du tout à l'avocat. Il me semblait que c'était le meilleur moyen de lui faire comprendre qu'il m'avait manqué. Au moment du départ, l'avocat m'enleva à Donna Cecilia et courut se mettre en voiture avec elle. Angélique et Don Francesco s'y trouvaient déjà. Contenant à peine le plaisir que j'éprouvais, je présentai mon bras à Donna Lucrezia en lui faisant un compliment qui n'avait pas le sens commun, tandis que l'avocat, riant de tout son cœur, semblait s'applaudir du tour qu'il croyait m'avoir joué. Combien de choses nous ne serions pas dites avant de nous livrer à notre tendresse, si le moment n'avait pas été aussi précieux. Mais, sachant que nous n'avions devant nous qu'une demi-heure, nous en fûmes avares. Mais nous étions dans l'ivresse du bonheur, quand tout à coup Lucrezia s'écrie « Oh, ciel, que nous sommes malheureux !» Elle me repousse, se remet, la voiture s'arrête et le domestique ouvre la portière. « Mais qu'est-il donc arrivé ?» lui dis-je. « Nous sommes chez nous. » Toutes les fois que je me rappelle cet événement, il me semble fabuleux. Car il n'est pas possible de réduire le temps à rien, et le chevaux était de véritables rosses. Mais nous eûmes bonheur sur bonheur. La nuit était sombre et mon ange se trouvait là, à la place où elle devait descendre. La première. De sorte que, quoique l'avocat fût à la portière aussi vite que le laquais, tout se passa à merveille par la lenteur que Lucrezia mit à descendre. Je restai chez Donna Cecilia jusqu'à minuit. Rentré chez moi, je me couchais, mais le moyen de dormir. J'avais en moi toute l'ardeur de cette flamme que la trop courte distance de Testaccio à Rome m'avait empêché de renvoyer au foyer d'où elle émanait. J'en étais dévoré. Malheureux ceux qui croient que les plaisirs de cité errée sont quelque chose, à moins que deux cœurs qui s'entraiment n'en jouissent dans un accord parfait. Un soir, à la réunion de son éminence où j'allais régulièrement, quoiqu'il m'arrivât rarement que quelques personnes de distinction m'adressent la parole, le cardinal me fit signe d'approcher. Il parlait à la belle marquise G, à laquelle Gamma avait dit que je l'avais trouvée la plus jolie. « Madame, me dit le cardinal, désire savoir si vous faites bien des progrès dans la langue française, qu'elle parle à merveille. » Je lui répondis en italien que j'avais beaucoup appris, mais que je n'osais pas encore me hasarder à parler. « Il faut oser, me dit la marquise, mais sans prétention. » On se met ainsi à l'abri de la critique. Mon esprit, ayant à mon insu donné au mot « oser » une acception à laquelle, vraisemblablement, la marquise n'arrivait pas à penser, le rouge me monta au visage. Et cette belle femme, s'en étant aperçue, changea de conversation, je m'éloignais. Le lendemain, à 7 heures, j'étais chez Donna Cecilia. Mon phaéton était à la porte, ainsi que ma voiture à deux places, qui, cette fois, était un élégant vis-à-vis, doux et si bien suspendu, que Donna Cecilia en fit l'éloge. « J'aurai mon retour en retournant à Rome, » dit Lucrezia. Je lui fis une révérence, comme pour la prendre au mot. C'est ainsi que, pour dissiper le soupçon, elle le défiait. Sûr d'être heureux, je me livrais à toute ma gaieté naturelle. Après avoir ordonné un dîner choisi, nous sortîmes pour aller à la villa Ludovici, et comme il pouvait arriver que nous nous égarassions, nous nous donnâmes rendez-vous à 1 heure à l'auberge. La discrète veuve prit le bras de son gendre, Angélique celui de son futur, et Lucrèce fut mon délicieux partage. Ursule et son frère s'en allèrent courir ensemble, et en moins d'un quart d'heure, ma belle se trouva seule avec moi. As-tu entendu, me dit-elle, avec quelle candeur je me suis assurée 2 heures d'un doux vis-à-vis avec toi. Aussi est-ce un vis-à-vis que l'amour est savant. Oh oui, mon adorable ami, l'amour a confondu nos esprits pour n'en faire qu'un seul. Je t'adore, et je ne passe tant de longs jours sans te voir que pour mieux m'assurer la jouissance d'un seul. Je ne croyais pas la chose possible. C'est toi qui as tout fait, mon ami. Tu en sais trop pour ton âge. Mais il y a un mois, mon adorable ami, que je n'étais qu'un ignorant. Et tu es la première femme qui m'ait initiée au véritable mystère de l'amour. Ton départ, Lucrezia, me rendra malheureux, car l'Italie ne peut posséder une autre femme qui t'égale. Comment? Je suis ton premier amour? Ah, oh, malheureux, mais tu n'en guériras pas. Que ne suis-je à toi? Tu es aussi le premier amour de mon cœur, et tu seras certainement le dernier. Heureuse, celle que tu aimeras après moi. Oh, je n'en serai pas jalouse, mais je souffrirai de ne pas lui connaître un cœur tel que le mien. Lucrèce, voyant alors mes yeux humides de larmes, donna un libre cours aux siennes, et nous étant assis sur le gazon, nos lèvres savourèrent leur rec nectar au milieu des plus doux baisers. Quelles sont douces les larmes de l'amour, savourées dans les élans d'une tendresse réciproque. Je les ai goûtées dans toute leur suavité, ces larmes délicieuses. Et je puis dire avec connaissance de cause que les anciens physiciens avaient raison et que les modernes ont tort. Dans un instant de calme, contemplant la plus ravissante des désordres, je lui dis que nous pourrions être surpris. Non, ne crains pas cela, mon ami. Nous sommes sous la garde de nos génies. Nous nous reposions en puisant dans nos regards amoureux des forces nouvelles, quand Lucrezia, regardant à sa droite, s'écria: Tiens, mon cœur, ne te l'ai-je pas dit? Oui, nos génies nous gardent. Ah, comme ils nous observent! Son regard cherche à nous rassurer. Vois ce petit démon. C'est tout ce que la nature a de plus occulte, admire-le. C'est certainement ton génie ou le mien. Je la crus dans le délire. Que dis-tu, mon cœur? Je ne te comprends pas. Que faut-il que j'admire? Mais tu ne vois pas là ce beau serpent à dépouille flamboyante et qui, la tête levée, semble nous adorer? Je regarde alors du côté qu'elle m'indiquait, et je vois un serpent à couleur changeante long d'une aune, et qui réellement nous regardait. Cette vue ne m'amusait pas, mais je ne voulus point me montrer moins intrépide qu'elle. Mais est-il possible, lui dis-je, mon adorable ami, que son aspect ne t'effraie point? Mais son aspect me ravit, te dis-je. Et je suis sûr que cette idole n'a de serpent que la forme ou plutôt que l'apparence. Et si, sillonnant le gazon, il venait en sifflant jusqu'à toi? Mais je te serrerais plus étroitement contre mon sein et je le défierais de me faire du mal. Lucrezia, entre tes bras, n'est susceptible d'aucune crainte. Tiens, il s'en va. Vite, vite! Il nous annonce par sa fuite l'approche de quelques profanes et nous dit que nous avons allé chercher une autre retraite pour renouveler nos plaisirs. Allons! À peine debout, nous nous avançons d'un pas lent et nous voyons sortir d'une allée voisine Donna Cecilia avec l'avocat. Sans les éviter, sans nous presser, comme s'il était très naturel de se rencontrer, je demande à Donna Cecilia si sa fille craint les serpents. Malgré tout son esprit, dit-elle, elle craint le tonnerre jusqu'à s'évanouir, et elle jette les hauts cris à l'aspect d'un plus petit serpent. Il y en a ici, mais elle aurait tort d'en avoir peur, car ils ne sont point venimeux. Mes cheveux se dressèrent sur ma tête d'étonnement, car ces paroles me prouvaient que je venais d'être témoin d'un vrai miracle d'amour. Dans cet instant, les enfants survinrent et, sans façon, nous nous séparâmes de nouveau. Dis-moi, être étonnant, femme ravissante, qu'aurais-tu fait si, au lieu de ton joli serpent, tu avais vu apparaître ton mari et ta mère? Rien. Ne sais-tu pas qu'en des moments si solennels, les amants ne sont qu'amoureux? Douterais-tu de m'avoir possédée tout entière? Lucrezia, en me parlant ainsi, me composait pas une ode. Point de fiction, la vérité était tout à la fois dans ses regards et dans le son de sa voix. Et crois-tu, lui dis-je, que personne ne nous soupçonne? Mon mari, ou ne nous croit pas amoureux, ou n'ajoute aucun prix à certaines bagatelles que la jeunesse se permet ordinairement. Ma mère a de l'esprit, et peut-être imagine-t-elle la vérité, mais elle sait que ce ne sont plus ses affaires. Quant à ma sœur, elle doit tout savoir, car aurait-elle pu oublier le lit enfoncé? Mais elle est prudente, et outre cela, elle s'avise de me plaindre. Elle n'a pas une idée de la nature de mes sentiments pour toi. Sans toi, mon ami, j'aurais probablement traversé la vie sans avoir de ce sentiment une idée exacte. Car ce que j'éprouve pour mon époux, j'ai pour lui la complaisance que mon état m'impose. Oh, il est pourtant bien heureux et j'envie son bonheur. Il peut, quand il le désire, presser tout ton être dans ses bras. Nul voile importun ne s'interpose pour lui ravir le moindre de tes charmes. Mais où es-tu, mon cher serpent? Accours, viens me mettre à l'abri des regards profanes, et à l'instant je comble les vœux de celui que j'adore. Nous passâmes toute la matinée à nous dire que nous nous aimions et à nous en donner des preuves réitérées. Nous eûmes un dîner délicat et pendant tout le repas, je comblais d'attention l'aimable Cecilia. Ma jolie tabatière d'écaille remplie d'excellent tabac fit souvent le tour de la table. Dans un moment où elle se trouvait entre les mains de Lucrèce, qui était à ma gauche, son mari lui dit qu'elle pourrait me donner sa bague et garder la boîte en échange. Croyant que sa bague valait moins que la tabatière, je m'empressais de dire que je le prenais au mot, mais elle valait plus. Donna Lucrezia ne voulut pas entendre raison. Elle mit la boîte dans sa poche et force me fut d'accepter la bague. À la fin du dessert, quand la conversation s'animait, voilà le prétendu d'Angélique qui nous force au silence pour nous lire un sonnet de sa façon et qu'il avait fait pour moi. Je dus naturellement l'en remercier et, prenant le sonnet que je mis dans ma poche, je lui en promis un de ma façon. Ce n'était pourtant pas répondre à son désir. Il s'attendait que, piqué d'émulation, j'allais demander de l'encre et du papier et sacrifier à Apollon des heures que je voulais consacrer à un dieu que son flingue ne connaissait que de nom. Nous prîmes le café, je payai l'hôte, et nous allâmes nous enfoncer dans les labyrinthes de la villa Aldobrandini. que ces lieux m'ont laissé de doux souvenirs. Il me semblait que je voyais ma divine Lucrezia pour la première fois. Nos regards étaient brûlants, nos cœurs palpitaient à l'unisson de la plus tendre impatience, et l'instinct nous guidait vers l'asile le plus solitaire, et que la main de l'amour semblait avoir créé pour y consommer les mystères de son culte secret. Là, au milieu d'une longue allée et sous une touffe de verdure, s'élevait un large siège de gazon adossé à un fourré très épais. Devant nous, nos yeux plongeaient sur une plaine immense, et nos regards parcouraient l'allée à droite et à gauche, dans une étendue qui nous mettait à l'abri de toute surprise. Nous n'eûmes pas besoin de nous parler, et nos cœurs s'entendirent. Sans nous rien dire, debout l'un contre l'autre, nos mains à droite eurent bientôt écarté tous les obstacles et rendu à la nature tous les charmes que lui dérobent les voiles importuns. 2 heures entières se passèrent dans les plus doux transports. À la fin, charmés et satisfaits l'un de l'autre, nous regardant de l'air le plus tendre, nous nous écriâmes ensemble « Amour, je te remercie !» Nous nous acheminâmes à pas lents vers nos voitures et nous égayâmes le chemin par les plus tendres confidences. Mais Lucrezia me dit que le prétendu d'Angélique était riche, qu'il avait une belle maison à Tivoli et que probablement il nous inviterait à y faire une partie et à passer la nuit. « Je conjure l'amour, ajouta-t-elle, pour qu'il m'inspire le moyen de la passer sans obstacle, comme j'ai passé cette heureuse journée. » Ensuite, prenant un ton triste, elle dit « Mais hélas, l'affaire ecclésiastique qui a amené ici mon mari s'arrange si heureusement que je crains mortellement qu'il n'obtienne trop tôt la sentence. » Nous fûmes 2 heures en route et dans mon vis-à-vis, excédant, pour ainsi dire, la nature et lui demandant plus qu'elle ne pouvait donner. En arrivant à Rome, nous fûmes obligés de baisser la toile avant le dénouement du drame que nous avions joué à la grande satisfaction des acteurs. Je rentrai chez moi un peu fatigué, mais un sommeil, comme il y en a à cet âge, me rendit toute ma vigueur, et le matin, à l'heure accoutumée, j'allais prendre ma leçon de français.